sera, on la sera.
Nous sommes là, nous serons là. On l'a été pour contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et on le sera contre le projet d'Amazon. Merci.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre monde, autre zone. Un écho des luttes à retrouver tous les deux mois sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde,
autre monde, autre zone.
Autre zone.
Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour cette première émission Autre Monde, Autre Zone d'Attaque 44 pour la saison 2023-2024 sur Jet FM. Je suis Agnès et lors de l'université d'été des mouvements sociaux et des solidarités de Bobigny en août 2023, nous avons enregistré des ateliers et des plénières pour réaliser des podcasts sur l'UEMS et les diffuser dans le cadre de notre émission Autre Monde, Autre Zone. La première émission va être consacrée à l'atelier Travail et Intelligence Artificielle. Celui-ci a duré 2h30, donc nous n'allons pas diffuser tout l'atelier, mais seulement des extraits. ATTAC est une association qui défend et promeut l'éducation populaire. Cet atelier a été choisi par l'intérêt de son contenu, mais aussi parce qu'il utilise une méthode de l'éducation populaire qui s'intitule le débat mouvant. Un débat mouvant consiste à poser une question au public et à diviser le public en deux parties, celles et ceux qui sont d'accord avec la question et celles et ceux qui ne sont pas d'accord. Une fois que tout le monde est positionné, chacun, chacune va expliquer la raison de son positionnement. À tout moment, une personne peut changer d'avis et donc bouger physiquement pour rejoindre l'autre groupe. Et cette personne va expliquer pourquoi elle a changé d'avis. Le débat mouvant permet une participation du public très intéressante et très motivante. Alors, il faut une question au débat mouvant. Et là, nous avons choisi comme question, l'intelligence artificielle va-t-elle supprimer des emplois ? Donc, dans la première partie de l'émission, vous entendrez les arguments de personnes qui sont d'accord ou pas avec le fait que l'IA peut supprimer des emplois. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve dans une dizaine de minutes. À tout à l'heure.
Pour moi, l'intelligence artificielle, donc je suis en fait issu du secteur public. Je travaille dans l'administration à la Direction générale des finances publiques. Et donc nous, en fait, l'intelligence artificielle, les projets sont déployés largement depuis un certain nombre d'années. Et en fait, ces projets-là sont décidés et conditionnés à l'obtention de fonds publics. Et pour avoir ces fonds publics-là, il faut un certain nombre de gains de productivité qui se traduisent par la suppression d'emplois. Donc c'est clairement écrit noir sur blanc qu'il y a suppression d'emplois. Donc pour moi, dans le secteur public, la suppression d'emplois, il y a un lien de cause à effet entre l'IA et l'emploi. Ensuite, d'un autre côté, mon deuxième truc, c'est là où je suis indécis, c'est qu'on sait que l'intelligence artificielle, telle qu'elle est conçue par des humains, par des hommes et des femmes, telle qu'elle est déployée, décidée, et telle qu'elle sert à d'autres en bout de chaîne, elle demande énormément de ressources matérielles et humaines. Et donc, on l'a vu, je ne vais pas détailler, mais il y a un certain nombre de tâches qui incombent à l'IA, donc, comme le travail d'annotation des données, puisqu'on a besoin que les données soient fiables. Et donc, il y a besoin de tout un ensemble d'acteurs humains pour entraîner les algorithmes et aussi pour les calibrer. Et voilà, donc je ne développe pas plus, mais pour moi, il y a une réalité humaine.
Dans une société où toute personne qui ne travaille pas est mal considérée, enfin n'est pas considérée comme une personne qui ne fait rien, un paresseux, une paresseuse, dire que l'IA va supprimer pour qu'on ne va plus vers le travail, c'est pas possible en fait, parce qu'on est sur une société où en fait on fait tout pour que les chômeurs choisis ne puissent pas avoir de temps libre. Enfin, en fait, on est dans une société qui supprime le temps libre, qui n'aime pas les gens qui ne travaillent pas. Donc, dire que l'IA va supprimer le travail, c'est tout simplement pas possible dans le système qu'on a. Enfin, ils vont maintenir par des postes super précaires, par du travail, comme disait mon prédécesseur, super, enfin, très très précaire, du travail difficile, etc. Ils vont continuer à maintenir ça pour avoir une masse salariale.
Moi, j'avais lu un super bouquin, je ne sais pas si on m'entend correctement, il s'appelle Le futur du travail par Juan Sebastian Campbell, qui est en fait les métiers, enfin tout ce qui est proposé en innovation, l'intelligence artificielle, etc. Ça supprime du salariat, mais en fait ça précarise encore plus en fait d'autres métiers. Donc en fait, sous un prétexte de on va autonomiser, on va pouvoir vivre avec l'idylle de l'autonomisation. Va nous permettre de plus travailler. En fait, on précarise encore plus des métiers, souvent des travailleurs du clic dans d'autres pays. Donc, en fait, c'est pour ça que je suis contre ça.
Pour moi, l'IA, c'est la continuité du progrès. Et donc, comme à l'époque de la locomotive, comme à l'époque de différents gros progrès techniques, on voit l'apparition de nouveaux métiers, donc propres du coup à la fabrication d'IA, au contrôle des IA, à la vérification d'IA, etc. Mais on en voit aussi, du coup, d'autres qui vont disparaître. Donc, et pareil pour ce qui est de la robotisation, ça va enlever pas mal de... ça enlève pas mal de travail au niveau des ouvriers. Mais, du coup, il y a d'autres métiers qui se sont créés. Donc, pour moi, il y aura toujours du travail. Il sera juste des nouveaux métiers. La seconde question, c'est au niveau de l'emploi. Il y aura toujours une baisse des emplois, ça c'est net, mais je ne vais pas commencer à préparer la plénière de tout à l'heure ici, mais du travail il y en aura toujours, des emplois moins, point d'interrogation, réponse probablement, mais du coup les emplois très précarisés.
Oui, alors pourquoi moi je m'étais mis au milieu, parce qu'en fait ce qui me gênait c'était le terme travail, parce qu'il n'était pas assez défini pour que je puisse me mettre d'un côté ou de l'autre. Si on entend travail comme une exploitation, là, évidemment, je suis avec vous. Si on entend travail comme quelque chose de beaucoup plus large, effectivement, l'intelligence artificielle peut ouvrir des champs qu'on ne connaît pas encore. Mais voilà, tant qu'on n'a pas défini le terme travail, je ne peux pas me situer précisément.
Moi, si je me suis mise au milieu, c'est parce que... alors, pour moi, l'IA, pareil, hein, c'est la poursuite de la digitalisation, de l'informatisation. Enfin, c'est vraiment un bout. Enfin, peut-être pas l'extrême, mais c'est un bout. Et je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait eu des réflexions sur... on allait supprimer je ne sais pas combien d'emplois dans le monde, ce qui ne s'est pas avéré. Alors après, parce qu'en plus, pour ça, on aura toujours besoin de l'humain pour faire, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que ça ne va pas supprimer le travail. Mais en revanche, ça va avoir un impact sérieux sur le contenu du travail, hein, et sur la perte de sens du travail, parce qu'on voit bien qu'avec la numérisation, la digitalisation, enfin, le fait qu'il n'y ait plus de personnes en face, eh bien, ça déshumanise complètement le travail et on perd le sens du travail. Et donc, moi, c'est pour ça que je me mets un peu au milieu. Et je pense que... alors, bon, je suis syndicaliste, hein, donc, et je pense qu'après, il faut qu'on agisse, nous, sur le contenu du travail, pour faire en sorte qu'il ne soit pas aussi déshumanisé, qu'on y retrouve du sens. Parce qu'aujourd'hui, on est devenu vraiment des... on a des logiciels qui savent tout faire, on appuie sur des boutons, voilà. Et donc, il faut remettre, le métier là où il est, et parce que ça, on l'a quand même, on le perd de plus en plus. Et après, on dira effectivement qu'on est interchangeable pour faire quels que soient les métiers, et on perd de vue le métier, enfin la connaissance, voilà, le savoir.
Bonjour. Alors moi, j'ai peut-être un point de vue très optimiste par rapport à ça et utopiste même, mais je rejoins complètement l'avis de madame. Ça va supprimer des jobs qui sont inutiles, automatiques, Après, ça a clairement des dérives comme toutes les choses, et je trouve que c'est notre travail à nous de choisir et de genre pick and choose ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut enlever. Par exemple, autrefois, il devait y avoir des humains pour prendre l'appel, l'envoyer à quelqu'un d'autre. C'est inutile, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Et maintenant, on n'a plus besoin d'humains pour faire ce genre de choses. Mais après, le genre de dérives comme enlever les caissiers, ce genre de choses, et ça déshumanise clairement. Mais je trouve que c'est une bonne avancée qu'il faut juste, comme un peu tout, prendre avec du recul et faire des tests et voir. Mais pas complètement être contre et se radicaliser et se dire que non, ça va nous enlever nos jobs et on va se retrouver à la précarité, je sais pas quoi.
C'est tout. En fait, je pense qu'il faut effectivement définir de quel travail on parle. Ça a été très bien soulevé par la camarade tout à l'heure. Bon, là, je pense qu'on s'oriente vers une discussion sur l'emploi salarié. Donc, et je pense que la question qui est vraiment clivante, c'est plutôt est-ce que l'IA va supprimer l'emploi salarié ? Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut vraiment raisonner en deux temps. Dans un premier temps, ça va être une forme de nouvelle vague d'informatisation qui va reconfigurer l'emploi. Il va y avoir besoin de plus en plus de gens pour entraîner les IA, etc. etc. Mais les experts en IA, les gens qui travaillent dessus, les chercheurs, les ingénieurs, ils expliquent aussi que petit à petit, elles vont s'entraîner toutes seules et qu'elles n'auront plus besoin de données. Et la question, c'est est-ce qu'on peut faire une expérience de pensée dans 50 ou 100 ans où les IA sont vraiment capables de faire les boulots que font les humains seul. Et en fait, je pense que ça serait tout à fait prétentieux de notre part de donner une réponse oui ou non à cette question-là. On n'en sait rien, ce que donnera l'IA dans 100 ans. La seule question à laquelle on peut répondre là, maintenant, tout de suite, c'est l'IA demain, ce n'est pas les délires d'Elon Musk, c'est une nouvelle vague d'informatisation qui va reconfigurer le travail.
Oui, du coup, moi, ça me fait un peu penser sur les questions des tâches. Alors, moi, je suis doctorante en sociologie et c'est marrant parce que sur l'IA, on avait eu cette discussion avec ChatGPT, avec d'autres collègues doctorants qui disaient qu'ils avaient, moi, j'ai pas encore testé, mais qu'ils avaient testé et qu'en fait, ChatGPT pouvait leur faire un plan de thèse avec une proposition de terrain de recherche, une méthodologie, tout bien ficelé. Du coup, sur la question qui se pose sur justement est-ce que ça va remplacer des boulots sans sens ou d'autres types de boulots, c'est une vraie question. Et je pense que ce ne sera pas forcément justement des emplois qui peuvent être essentiels comme le travail ménager, ne seront pas forcément remplacés par l'IA. Donc...
Mais je vais faire un pas de côté en fait sur la discussion en revenant discussion très intéressante sur le mot travail. En physique, c'est en gros une force pour venir déplacer un objet. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on a besoin d'énergie pour venir faire travailler l'IA, qui consomme énormément. Et donc, moi le pas de côté que je fais, c'est essayer de prendre en compte cet aspect énergétique dans la dimension du travail et de l'IA, et de se demander, si demain, on veut vraiment décarboner et faire plutôt une transformation socio-écologique de notre société, est-ce que c'est possible de faire de l'IA? Et l'IA demandera donc du travail et donc de l'énergie. Et si ce n'est pas par des ressources fossiles et le renouvelable, on sait que ça a des limites et tout, finalement, est-ce que le travail, on ne sera pas retourné à être, nous, humains, venir utiliser une force de travail mécanique pour pouvoir faire travailler l'IA, enfin pouvoir donner de l'énergie pour que l'IA puisse faire le travail qu'on automatise. Voilà, c'était un pas de côté que je fais, mais que je trouve qu'il est intéressant de prendre en compte cette dimension énergétique et de lien à qu'est-ce que c'est qu'en fait le travail au sens physique.
De mon côté, je voulais rebondir sur l'idée que l'intelligence artificielle, ça va forcément déposséder les gens de leur métier et du sens du travail. À mon avis, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui fait ça, mais comment on l'utilise, comment on la met au service du capitalisme. C'est tout simplement ça, en fait. Parce que l'intelligence artificielle, en fait, c'est juste un outil, c'est juste un progrès qui peut faciliter des tâches et qui peut en complexifier d'autres et donc, du coup, qui peut enlever certains métiers et en recréer d'autres. Donc, si après, on calibre bien ce qui disparaît, ce qu'on peut créer, ce qui pourrait, du coup, ensuite être à nouveau créé et qu'aussi, on baisse le nombre d'heures de travail par semaine pour travailler tous et toutes, etc., l'IA ne sera pas un problème si on fait ça. Si l'IA, c'est quelque chose du coup, qu'on rend accessible à tout le monde pour aider tout le monde à travailler, ça va garder quand même le sens du métier en tant que tel. Ce sera juste une aide au métier, mais le métier restera là, le savoir restera là et le partage de connaissances restera là. C'est l'IA en soi, c'est juste quelque chose qui est là, qui est un progrès. Voilà. C'est, c'est ça, en fait, il faut quand même qu'on garde en tête ça, c'est un progrès. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait du progrès ? Est-ce qu'on laisse la classe dominante s'en servir ? Ou est-ce qu'on continue à lutter et que du coup, ce progrès, on se l'accapare ? C'est plutôt comme ça que je vois la chose, quoi.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir.
Voilà donc la fin de la première partie. Une petite pause musicale avec Bernard Lavillier, Les Mains d'Or. Et maintenant, la deuxième partie avec une deuxième question pour le débat mouvant. Je vous laisse la découvrir. Et la troisième partie sera plutôt consacrée aux intervenants professionnels qui présenteront leur point de vue sur le travail et l'IA dans cet atelier. À tout de suite.
Une IA, une intelligence artificielle de gauche, parce qu'on a parlé que c'était un outil, ça a été dit plusieurs fois. Est-ce qu'une IA de gauche serait possible ? Si vous êtes d'accord, vous mettez à gauche. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez à droite.
Du coup, on en profite pour rebondir pour ceux qui n'ont pas encore parlé, s'ils veulent bien s'exprimer. Voilà.
Oui. Est-ce qu'une IA de gauche peut être possible ? Je crois que le problème se pose que maintenant, avec l'IA, comme il s'est posé avec n'importe quelle innovation technique, découverte et autres, c'est-à-dire qui décide de ce qu'on va en faire et pourquoi et au profit de qui ? Je pense que c'est possible, mais à certaines conditions qu'on voit mal réunies en ce moment.
Ben, je conçois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir une IA de gauche, vu que l'IA ne fait que reproduire les biais préexistants dans la société. Et ça veut dire que si une partie de la société qui est de gauche crée une IA, elle va émettre ses idéologies, elle va émettre ses biais, et du coup, elle va juste les reproduire. Et du coup, ben...
Moi, ça m'interroge sur la question, en fait, dans un univers où on part du principe qu'on va utiliser l'IA, quel est l'horizon technologique qu'on est en train d'utiliser ? Et en fait, pour moi, l'IA, elle s'inscrit nécessairement dans une forme de complexité technologique, de on a beaucoup de données à traiter, on a besoin d'optimiser, on a besoin d'aller plus vite, etc. Et en fait, ça, que ce soit de gauche, de droite, je ne sais pas comment on pourrait définir ces idéologies-là, mais en fait, ça s'inscrit forcément pour moi dans une démarche productiviste capitaliste. Et du coup, pour moi, en fait, même si l'IA, elle sert, je sais pas, à des assos féministes ou à des mouvements écologistes, etc., en fait, dans son essence même, elle me paraît antinomique à, justement, de l'idéologie de gauche, c'est-à-dire repenser son rapport au travail, donner du sens, se réaliser par le travail, etc. Et du coup, moi, je me mets très radicalement vers le « non, je pense pas qu'une IA peut être de gauche ». Et après, c'est très débattable parce qu'on pourrait dire, en fait, le GIEC qui produit des rapports sur le climat, en fait, il s'appuie sur des tas et des tas et des tas de données et d'articles scientifiques qui ne peuvent pas forcément être traités à la main de personne à personne. Et du coup, ça pose la question de peut-on avoir juste les avantages d'une technologie sans les inconvénients? Et ça, je pense que non. Et du coup, je pense que, par exemple, on ne peut pas avoir juste les avantages du numérique sans tous les effets de massification, de dépossession de notre rapport à la technologie, etc. Et du coup, enfin bref. Pour moi, l'IA peut pas être de gauche, mais.
Ouais, alors, bon ben moi, pareil, je pense qu'une IA de gauche n'est pas possible, parce que déjà rien que la manière dont elle émerge, dont elle est conçue, donc on l'a déjà dit, hein, mais elle repose sur l'exploitation des ressources naturelles et des ressources humaines, donc avec des travailleurs précaires, et aussi donc d'un point de vue, si on prend ne serait-ce que sous l'angle écologique, on ne devrait même pas avoir ce débat, il devrait être terminé, puisque l'IA est extrêmement consommatrice, et il faut voir la finalité, est-ce que ça vaut le coup de mettre en balance les ressources qui sont impactées, et la finalité du projet, quand on voit ChatGPT, à quoi ça sert, est-ce que vraiment ça vaut le coup que ça coûte par exemple 700 000 euros par jour, ChatGPT, il faut le savoir. Donc rien que ça, ils savent que le modèle n'est pas viable. Ensuite, comment elles émergent, il y a une idéologie aussi de dire qu'on peut peut-être traiter les données, donc la masse de données, sans humain. Il y a peut-être des technologies, des méthodes qui émergent en ce moment. On appelle ça l'IA frugale et tout ça. Pourquoi pas. Il y a aussi le fait qu'on peut peut-être rectifier les biais, parce que l'IA, on le sait, ça accroît les discriminations, les traitements, forcément avec tous les biais qui sont embarqués dans la sélection des données et tout ça. Les biais aussi discriminants pour les femmes. Donc, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, et telle qu'elle aussi, elle hérite de... En fait, l'IA, c'est aussi au niveau militaire. C'est une technologie qui est militaire, c'est une technologie duale, c'est une technologie militaire qui arrive dans le civil et qui est poussée par une économie numérique. Et donc là, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire, en gros, le capitalisme, là, ils sont en panne. En fait, il faut trouver quelque chose pour relancer la production et relancer le moteur de la croissance et tout ça. Et l'IA répond bien dans un premier temps à ça. Et dernier truc, je ne fais pas plus long. Moi, je poserais bien, il n'y a aucune évidence à ce que ça soit un progrès social. Est-ce que le progrès technologique est synonyme du progrès social? Non, pas forcément. On peut même remettre ça en question, il n'y a pas d'évidence. C'est juste ça que j'ai dit.
Merci beaucoup. Pour rebondir très rapidement sur ce qui vient d'être dit, moi, je ne crois pas du tout que les techniques ne sont ni de droite ni de gauche, dans le sens où, en fait, une technique et une technologie, c'est-à-dire un processus industriel, encore plus, elle est financée et elle est créée par un complexe politico-économique qui a une volonté derrière. Et donc, aujourd'hui, quand on crée l'IA, c'est pas ni moi ni vous qui avez créé l'IA et qui avez choisi de la mettre en place, c'est un certain complexe politico-économique, militaire, comme ça a été dit. Et donc, en ce sens, la technologie aujourd'hui est capitaliste, en fait. Elle ne peut pas être. Et donc, si on se dit de gauche anticapitaliste, on ne peut pas se dire qu'une IA peut être de gauche, à mon sens. Et en plus, elle amène un niveau de complexité qui ne permet pas, à mon sens, de pouvoir se l'approprier dans aucun contexte. Parce qu'on voit déjà qu'il y a plein de choses, comme un téléphone, où on a du mal à comprendre vraiment ce qui s'y passe. Mais encore, on peut appuyer sur le bouton off et on peut dire, en fait, demain, on l'arrête et puis on repart comme avant, entre guillemets. L'IA, elle fait des processus, elle fait des actions, des opérations, si vous voulez, qu'on ne comprend pas et qu'elle ne nous dit pas. C'est-à-dire qu'il y a une opacité aussi de la technologie. Et donc ça, je pense que ça contribue à la rendre inappropriable. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est que le point le plus important, c'est l'impression sur laquelle on se base pour se dire qu'une IA peut être intéressante à notre sens dans un monde de transformation socio-écologique, c'est pour enlever notamment les tâches pénibles au travail. Mais pour moi, les tâches pénibles au travail, elles viennent justement de ce monde capitaliste et industriel productiviste. Et donc, si on veut être dans un autre monde, eh ben, ces tâches pénibles-là n'ont plus la même importance. Et donc, on peut redistribuer ces tâches et l'organisation du travail différemment. Et dans ce monde-là, on n'a plus besoin de l'IA parce que les tâches pénibles ne sont plus exactement faites de la même manière. Et du coup, le sens social de l'IA n'existe plus. Et en plus, on s'évite de dépenses énergétiques, à mon sens, inutiles dans un monde de sobriété.
Je voulais peut-être abonder dans le sens de l'avant-dernière remarque, donc le monsieur avec le cœur à gauche. comme dirait l'autre, me demander si l'IA n'était pas essentiellement une forme d'accumulation du capital et d'appropriation du capital, à savoir des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'années de travail vivant, intellectuel notamment, qui ont été déposés sur l'Internet notamment, et qui sont captés, appropriés, processés par des grandes entreprises à but lucratif, et qui demain certainement feront payer, si ce n'est déjà le cas aujourd'hui, des abonnements IA aux grandes entreprises, aux particuliers fortunés, etc. Et donc si on définit l'IA comme ça, comme une appropriation, une accumulation primitive du capital, alors en effet elle est essentiellement de droite. Bon, pour simplement reconnaître que cette idée, c'est évidemment pas moi qui l'ai eue comme ça, mais c'est un petit essai de Naomi Klein, voilà, je ne sais pas si certains l'ont lu, dans le Guardian, qui compare l'IA à cette accumulation primitive du capital des siècles précédents, comme par exemple l'accumulation des terres au moment des enclosures, etc. Et c'est, bon, si ça intéresse les gens ici, c'est un essai que je recommande. Voilà.
Donc je reviens sur mon idée de départ, et en même temps, par rapport à ce que disait madame, je fais remarquer quand même qu'il y a une ségrégation de plus en plus forte entre les filières scientifiques et techniques et les filières humaines et sociales, et qu'il faut réfléchir aussi à la question de la division du travail sexué. Et en plus, quand on regarde les métiers, la plupart des métiers, ils comprennent plusieurs types de tâches. Et parmi les différentes tâches, il y a notamment des tâches relationnelles, avoir le souci des autres, prendre soin des autres, etc. Et toutes ces tâches-là, elles sont faites par les femmes en général, et elles sont dévalorisées. Alors qu'en réalité, ça correspond à des besoins énormes dans la société. On voit aujourd'hui les hôpitaux, on voit les écoles, etc. Donc c'est bien évident que le problème de fond, c'est la dévalorisation de toutes ces tâches-là par rapport à celles des professions qui traite de l'intelligence artificielle, enfin les informaticiens, tout ça. Je pense qu'il y a un clivage énorme à ce niveau-là.
Alors, vas-y. Pour conclure, alors, je ne sais pas si vous voulez faire l'exercice, mais on aurait bien voulu une dernière fois que vous vous leviez tous pour dire l'IA de gauche, l'IA ou pas de droite, mais en tout cas pas de gauche. Et après, une fois qu'on fait ça, ça dure 30 secondes juste pour que nous on ait une vision de la fin des débats. Et après, vous pourrez prendre tous une chaise et vous installer là, et les intervenants se mettront là, et puis on va commencer à avoir un autre débat si ça vous dérange pas. Voilà, merci beaucoup.
Travailler plus, gagner plus, j'aurai moins de temps. Le temps, c'est de l'argent, j'aurai moins d'argent.
J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas, ouais, travailler du tout. Moi, ce que j'aime, c'est glander. Quand je glande, faut pas m'emmerder. Et pour être sûr de me lever tard, tous les soirs je me fume un pétard. J'aime pas travailler, patron. Tu crois que je te prends pour un con?
Ça bouge sud-est.
Tu aimerais bien me virer. si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas retravailler du tout. Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage à me dorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaye de rester positif. Si je dois redoubler l'effort, alors directement je m'endors. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas ouais travailler du tout. Et si un jour un beau matin je dois m'en aller au turbin, je prendrai mes jambes à mon cou et je partirai pour le Pérou. Dans la cordillère des Andes, je créerai la République de la Glande. Travailler sans interdit, maximum syndical garanti. Ce sera un pays sans banque, ce sera un pays sans banque. Et tranquille sous mon arbre à joie.
Fin de la deuxième partie avec une musique de Zoufri Maracas, J'aime pas travailler. Troisième et dernière partie avec Jérôme et Linda de Finances Publiques, Solidaires Finances Publiques, et Thomas Coutreau d'Attaque, ainsi que des questions à nouveau du public. Et nous avions commencé notre émission avec les gains de productivité, et Thomas fera la clôture de l'émission en parlant aussi des gains de productivité. Je vous retrouve à la fin de cette troisième partie pour une petite conclusion. À tout de suite.
Moi, je voudrais un petit peu battre en brèche trois idées un peu qu'on a l'habitude d'entendre par nous, notre administration, ou même les patrons ou ceux et celles qui développent et qui font la promotion de l'IA. On nous dit ça va alléger les tâches, ça va permettre d'automatiser un certain nombre de tâches. Voilà. Bon, nous, ce qu'on constate en fait, c'est que ça recrée aussi des tâches très répétitives. Je vais vous donner l'exemple. Moi, je bosse dans le contrôle fiscal. On fait de la programmation pour programmer des contrôles fiscaux. Là où avant, les collègues, parce qu'ils connaissaient le terrain, faisaient... ils croisaient elles et eux-mêmes des données, hein, déjà, ce que je veux dire, l'IA n'a rien inventé, on croisait déjà des données avant, ils le faisaient simplement manuellement, mais parce qu'ils connaissaient le terrain et qu'ils savaient là où ils habitaient et qui pouvait frauder potentiellement et compagnie. Là maintenant, ils reçoivent des listes de 1000 sociétés qui sont envoyées complètement centralisées par Bercy, et ils doivent se descendre les 1000 sociétés pour savoir s'il faut effectivement engager un contrôle ou pas. Donc est-ce qu'on pense que ça allège les tâches, ou est-ce qu'on n'est pas en train de recréer une autre forme d'automatisation finalement? C'est une question, et en tout cas nous, ça nous pose question. Non seulement les collègues qui font de la programmation donc refont les mêmes tâches très répétitives de savoir si chaque dossier on peut vraiment le mettre en contrôle ou pas, mais en plus ils constatent qu'il y a énormément de ce qu'on appelle nous de déchets dans ces listes. Pour vous donner un exemple, en 2021, c'est pas nous qui le disons, c'est un rapport du Sénat qui est consultable en ligne, sur 85 000 dossiers qui ont été des dossiers concernant des sociétés potentiellement contrôlables qui descendent de Bercy, en réalité les collègues quand ils refont le tri, il n'y en a que 17,6% qui vont mettre en contrôle, qui vont lancer en contrôle. Le reste, ça ne sert à rien, c'est des croisements de données. En fait, on l'aurait fait avant, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tout le monde ne fait peut-être pas de fiscalité, mais c'était évident qu'en croisant certaines données, c'était la société, il ne fallait pas la contrôler. Bref, 17,6%. Derrière, toujours, hein, c'est les rapports du Sénat, derrière, ces 17,6% de dossiers qu'on va contrôler, ça va représenter 9% des rehaussements qui seront faits en 2021 en France dans le contrôle fiscal. c'est pour vous dire que c'est ni de qualité, ni efficace. Ça, c'est un peu ce que ça fait au travail. Ça a été beaucoup dit, perte d'autonomie, fuite des savoirs et de la technicité aussi. Hein, parce qu'évidemment que quand on ne croise plus nous-mêmes les données ou quand on ne fait plus ces efforts-là, bah forcément, les savoirs peu à peu partent. Et pour finalement, des tâches qu'on fait en étant toujours de moins en moins, Damien lundi, nous la programmation, ils appellent ça par liste data mining, en 4 ans, c'est moins 500 postes, c'est un quart des effectifs qui font de la programmation en France. Donc du coup, l'impact sur le travail, non seulement sur l'évolution de nos missions, mais aussi sur les conditions de travail, il est très négatif. Et c'est ce qu'on, encore une fois, ce que je vous disais, c'est que ce que je raconte là, ça n'a pas vocation à être universel, mais parce qu'on n'a pas fait des travaux de sociologie du travail qui seraient, je pense, super intéressants pour voir si ces dynamiques-là, on les retrouve dans d'autres secteurs, mais c'est sûrement déjà en cours par des sociologues. Mais en tout cas, nous, on essaiera de le confronter, ces premières constats, on essaiera de les confronter dans des journées qu'on fera chez Solidaires au mois de décembre avec d'autres camarades, d'autres secteurs professionnels pour voir si effectivement ces dynamiques-là sont à l'œuvre dans d'autres secteurs. Et enfin, pour finir, parce que je pense qu'aussi une des questions qui doit nous porter un peu pour aller de l'avant là, dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est comment est-ce qu'on agit. Alors là, on a parlé du travail. Donc nous, comment est-ce qu'on agit syndicalement, évidemment, au travail, parce que Damien l'a dit, on n'a aucun élément aujourd'hui, sous prétexte que c'est de l'intelligence artificielle et que c'est de l'informatique et que c'est très technique. Nous, dans le dialogue social, on n'a plus rien. C'est-à-dire qu'à changement dans nos missions de valeur égale, vu l'impact que ça a, d'habitude, il y aurait eu on aurait eu les CHSCT qui n'existent plus maintenant, mais ils auraient été consultés. Aujourd'hui, sous prétexte que ça passe par de l'intelligence artificielle, il n'y a plus aucune consultation. Donc, pour vous dire, nous, on a dû saisir. Aujourd'hui, on a fait des appels pour avoir des informations. On est passé en écrivant au ministère, parce qu'en tant que syndicat, ils ne nous répondent pas. En tant que citoyen, on a fait appel à la CADA, qui est l'instance qui oblige l'administration à répondre aux citoyens quand ils ne donnent pas les documents. Là, on s'est rendu compte que tous ces projets, et ça rejoint aussi des questions qui ont été évoquées tout à l'heure, finalement, ils sont réalisés par des sociétés du privé. Ça tient sur 3 ou 4 sociétés, hein, nous, à qui on donne des millions, si ce n'est pas des milliards d'euros pour développer ça, alors qu'on a des informaticiens et des informaticiennes en interne, fonction publique. Hein, donc on pourrait aussi, on parlait tout à l'heure, est-ce que ça pourrait être une IA de gauche, on pourrait aussi détenir ces savoirs-là et on pourrait aussi être à la manœuvre sur les logiciels qu'on développe, sur les algorithmes qu'on fait travailler. Mais même ça, à la rigueur, même ça, on ne le fait pas. Donc du coup, syndicalement, on est obligé, nous, de travailler avec des journalistes, de travailler avec des sociologues à l'extérieur pour essayer d'avoir un petit peu d'éléments. Et pour être positif, ça nous oblige aussi à sortir un peu de nos modes d'action syndicale et à en trouver d'autres. Et c'est pas fini, on en trouvera d'autres.
Oui, donc moi je suis Thomas Coutreau, je suis économiste, statisticien, et là j'interviens au nom de l'ATAC, mais en fait je suis plutôt actif en ce moment dans les ateliers travail et démocratie avec Corinne. Donc les ateliers travail et démocratie, c'est un regroupement de chercheurs, syndicalistes et spécialistes, militants de la santé au travail, qui essaient de poser la question du travail comme une question politique et donc une question démocratique. Voilà. Et évidemment, alors je pense que la discussion l'a pas mal illustré, hein, je vais essayer de le montrer très rapidement, mais déjà, il y a un truc que j'aimerais avec lequel on soit d'accord à la sortie de cet atelier, c'est l'idée que parler de l'effet de l'intelligence artificielle, ça n'a aucun sens. Je crois qu'il y a eu d'innombrables témoignages et prises de position pour dire que ça dépend énormément de la façon dont la technologie est mise en place. Ma co-auteure Coralie Pérez, elle a fait des enquêtes dans le secteur bancaire et où l'algorithmisation du travail est galopante. Elle est allée chez Boursorama et il y a un algorithme d'intelligence artificielle qui est là pour faire le boulot des conseillers et permettre d'autoriser la banque à supporter un taux de turnover de 100%. Ça veut dire que chaque année, 100% des conseillers bancaires de Boursorama démissionnent. Ils recrutent 100% de nouveaux conseillers. Donc ils se foutent complètement de la qualification de leurs employés. Il y a les algorithmes qui sont là pour cadrer leur travail. Mais à l'inverse, dans une autre banque mutualiste, que je ne citerai pas, c'est le Crédit Mutuel, le même type d'algorithme le travail des conseillers bancaires est utilisé pour épauler les professionnels leur proposer des solutions, mais pas du tout pour décider à leur place. Donc l'algorithme va faire des calculs de solvabilité, va faire des lettres types en fonction des caractéristiques du client, mais les décisions, les courriers, tout ça est du ressort du conseiller. Il n'est pas remplacé par l'algorithme, il est juste épaulé. Donc voilà, ça peut illustrer le fait qu'il n'y a pas d'effet de l'intelligence artificielle en soi. Il y a un effet de l'intelligence artificielle à travers les choix organisationnels que cette intelligence, enfin que cette technologie supporte, au service desquels elle est mise en œuvre. Donc tout ça pour dire qu'on est face à des choix organisationnels et des choix politiques. Donc c'est vraiment notre obsession, si je peux dire, à nous, les ateliers de travail et démocratie, c'est-à-dire c'est des questions politiques. Donc c'est des questions qui devaient être discutées démocratiquement, parce qu'on ne peut pas laisser ni les scientifiques, les chercheurs, ni les employeurs qui décident des investissements, on ne peut pas les laisser tout seuls déployer ces technologies en fonction des objectifs qui sont les leurs. Et du coup, ça nécessite, en termes de revendications politiques, ça nécessite des choix, des orientations stratégiques, par exemple, de donner de nouveaux droits aux travailleuses, aux travailleurs et plus généralement aux citoyens, des nouveaux droits en termes de temps et de moyens pour délibérer, pour discuter et rendre des avis dont le caractère contraignant serait à négocier, à discuter. Ça, c'est des débats sociaux qui doivent avoir lieu. Mais en tout cas, le débat doit porter, selon nous, sur vraiment aujourd'hui comment est-ce qu'on met la politique au poste de commande sur cette question des choix organisationnels des entreprises, des administrations qui déterminent largement l'emploi, le travail du futur. Bon. Mais alors, une fois que j'ai dit ça, et je conclurai là-dessus, en fait, au moment du débat, là, au débat, j'étais parti sur l'idée que l'intelligence artificielle de gauche était possible. Et puis progressivement, j'ai plutôt été vers la droite, si je peux dire, à la lumière du débat. Alors, il y a un point, il y a une intervention qui m'a fait vraiment basculer, c'est ton intervention quand tu as dit « mais l'énergie nucléaire, c'est ni de droite ni de gauche ». Là, je me suis dit « merde, oui, il y a un problème, parce que si, l'énergie nucléaire, c'est de droite ». Alors là, pour le coup, c'est une technologie, si tu veux, qui est tellement dangereuse, qui nécessite un tel contrôle militaire, politique, etc., pour qu'elle puisse se déployer sans mettre en péril l'humanité, que oui, c'est une technologie policière, c'est une technologie militaire, je dirais, par nature. Bon. Donc là, c'est peut-être un cas extrême, mais ça montre bien que, en fait, ce qui finalement doit nous guider dans la réflexion, c'est plutôt la question. Alors, est-ce que les techniques sont neutres ou pas? Est-ce que la technologie est neutre ou pas? Je crois que ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre d'une façon générale. Toi, tu avais plutôt tendance à dire, si c'est neutre, on peut le mettre au service d'un projet ou au service d'un autre. Je ne crois pas qu'on puisse mettre le nucléaire au service d'un projet de gauche, par exemple. Et donc, la question clé, c'est la question des irréversibilités. C'est-à-dire, dans quelle mesure une technologie met en œuvre de telles irréversibilités qu'il n'y a plus de choix démocratique possible et on est pris par les décisions on est contraint par les décisions qui ont été prises antérieurement. On ne peut plus revenir en arrière. Et là, du coup, ce n'est pas une technologie qui permet le déploiement de la démocratie. Ça, c'est le nucléaire, typiquement. Et du coup, ça mène à réfléchir sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une technologie qui permet la réversibilité? Est-ce que, à partir du moment où on a déployé un certain nombre de techniques et on a accumulé un certain nombre de... Alors, le big data, la technologie repose sur le big data. C'est-à-dire, le big data, c'est toujours plus de données pour alimenter les intelligences artificielles. Donc, on est dans une logique, effectivement, qui est une logique d'accumulation, une logique de toujours plus de données, toujours plus de consommation énergétique pour rendre l'algorithme toujours plus intelligent. Est-ce que ça, c'est une technologie qui peut être démocratique? Je ne crois pas. Cette question de l'irréversibilité, elle est majeure. Il y a le marteau. Le marteau, c'est une technologie réversible. On peut choisir de ne plus s'en servir. Ou de s'en servir, ou de fabriquer des marteaux avec des produits, des matières différentes, etc. Donc, et finalement, ça met aussi à poser la question du web. Est-ce que le web est une technologie réversible? On voit bien qu'aujourd'hui, le web, c'est une technologie complètement cumulative, avec un volume d'énergie et de data qui circule sur le web qui augmente de façon exponentielle, et ça va continuer, la 5G, la 6G, etc. Est-ce qu'on n'est pas là face à des technologies dont il est quasiment impossible de reprendre le contrôle démocratique? Voilà, c'est vraiment une question. En tout cas, voilà, je ne crois pas qu'il y ait de réponse certaine, de réponse individuelle en tout cas à ces questions-là. Et je crois que c'est vraiment des questions qui doivent être l'objet d'un débat démocratique le plus large possible.
Moi, j'avais une question, c'était par rapport à l'automatisation et je ne sais plus quel camarade qui a dit forcément les entreprises vont se saisir de l'IA, ils n'auront pas le choix, etc. Et du coup, moi, j'étais ouvrier à la Poste, donc dans la logistique en général, du coup, j'ai un peu étudié le truc sur la logistique. Et plutôt, dans la logistique, il n'y a pas tant d'automatisation que ça. Il y a un peu les grandes images d'Amazon qu'on voit. Mais en vrai, de vrai, les gens, ils déchargent les camions à la main et ils chargent les camions avec certains outils. Mais voilà, du coup, il y a assez peu d'automatisation. Et ça ne va pas trop dans ce sens-là en ce moment. Et même là où je bossais, en fait, plutôt, ils désautomatisaient des choses et ils revenaient à des chantiers de plus en plus manuels, etc. Et du coup, voilà, ma question, c'était ça. Moi, j'avais un contre-exemple par rapport à ça. Et du coup, pourquoi, du coup, si les entreprises trouvent que l'IA, c'est nul et que ça ne leur sert à rien et que ça ne rapporte pas tant que ça, finalement, est-ce que vraiment tout le monde va s'en saisir? Comme des fois, on a quand même très souvent des effets d'annonce en mode voilà, maintenant, demain, tout le monde va être remplacé par des robots, je ne sais pas. Bon, si tout le monde était remplacé par des robots, ça serait quand même là, visiblement, vu qu'il n'y a jamais eu tant d'ouvriers dans le monde et d'ouvrières dans le monde, je crois, dernièrement. Donc, visiblement, ce n'est pas trop ça qui se passe. Mais du coup, voilà, c'était ma question par rapport à cette contradiction-là, quoi.
Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le déploiement de l'intelligence artificielle, il n'est pas inéluctable dans le secteur concurrentiel? Les entreprises, finalement, elles ont besoin de baisser leurs coûts de production, l'IA le permet, et finalement, celle qui n'adoptera pas cette technologie, finalement, elle va rester à la traîne. Les prix qu'elle va pouvoir proposer aux consommateurs seront plus élevés que celles qui ont adopté l'IA, et donc, fatalement, elle va être évincée du marché. Donc finalement, on va avoir dans les secteurs concurrentiels un espèce de fin de la concurrence, hein, des oligopoles, peut-être même jusqu'au monopole. Et en fait, pour moi, l'IA, c'est une technologie qui est inéluctable et qui pourrait éventuellement être contrecarrée s'il n'y a pas d'énergie pour alimenter cette technologie.
Oui, moi je travaille dans la recherche scientifique en maths. Je voulais faire un témoignage sur mon secteur professionnel là-dessus. Je suis militant à la suite de recherche et j'espère qu'on aura l'occasion de participer à vos journées. Ça m'intéresse beaucoup. On pourrait imaginer que les maths, c'est un truc super intellectuel qui ne peut pas être remplacé par des machines. Alors faire 2 plus 2, effectivement, les calculatrices savent le faire depuis longtemps, mais faire des démonstrations, on pourrait imaginer que c'est impossible. En fait, mon secteur est en train d'être sacrément bousculé par la question. On a des étudiants en licence, en master, qui nous rendent des copies rédigées par ChatGPT. Mes collègues sont en train de s'interroger sur arrêter de demander des devoirs à la maison, tout simplement, y compris au plus haut niveau, enfin en master, quoi. Et en fait, un autre exemple, il y a un théorème très simple, on peut poser le problème de manière très simple, ça s'appelle le théorème des 4 couleurs. Je vous invite à aller regarder sur Wikipédia si vous ne savez pas ce que c'est. C'est un problème vraiment très simple, il n'y a pas besoin d'être bon en maths pour comprendre de quoi il s'agit, qui a été démontré par un ordinateur il y a quelques temps. On n'a pas de démonstration explicable par un être humain à ce jour. La démonstration faite par l'ordinateur énumère tous les cas possibles. Il y a tellement de cas qu'en fait, l'énumération n'est pas lisible par un être humain dans sa durée de vie. C'est vachement important. Et donc, ça illustre bien cette notion d'irréversibilité. Ce théorème-là, il a été démontré. Maintenant, il est acquis comme vrai. Aucun être humain ne sait le démontrer ou expliquer sa démonstration, à part vous faites les cas un par un et vous les demandez à une machine. Et la lecture de Karl Marx tout à l'heure, je pense, elle est aussi un petit peu dans le même sens. C'est-à-dire qu'on peut trouver que c'était ridicule. Moi, je trouve que c'était pas ridicule. Je trouve que c'était au contraire extrêmement flippant. On a un ordinateur, là. ChatGPT, c'est vraiment le niveau zéro de l'IA. Il ne faut pas imaginer que c'est le summum. On a ChatGPT, qui est le niveau zéro de l'IA, qui a déjà été dépassé par les avancées de OpenAI sur GPT-4, là, comme l'explique Antonio Casilli. On a une machine qui est donc capable de nous sortir un discours de Karl Marx qui pourrait être pris comme véridique par quelqu'un qui n'aurait pas la réalité de la source. Et juste, je termine sur la recherche scientifique. ChatGPT est capable de rédiger des faux articles de recherche avec des bibliographies dedans, avec des vrais auteurs, des vrais journaux, et les articles n'existent pas. Donc il faut être capable de comprendre. Il ne suffit pas de dire cette revue-là n'existe pas, si elle existe, les auteurs, ils existent. Il est capable de concevoir de A à Z des bibliographies complètement fausses.
Oui, sur la question de savoir si on pourrait réussir à inverser, enfin si ce n'est inverser la vapeur, en tout cas à faire en sorte que ces technologies qui sont imposées soient moins impactantes pour les citoyens et pour les personnels. On a quand même une crainte sur ce sujet précis. C'est que c'est typiquement un argument qui est de plus en plus avancé, y compris par nos opposants, en l'occurrence l'administration pour ce qui nous concerne, à savoir où il y a une sorte d'acceptation qui est arrivée, y compris par toute la législation européenne qui a découlé assez récemment sur la prise en compte de tout ce qui est risque de biais, risque de discrimination et toutes ces thématiques là. Aujourd'hui, maintenant, chaque fois qu'il y a un développement de projets d'intelligence artificielle, l'administration ou les politiques en face vont faire un peu ce qu'est le greenwashing pour l'écologie, quoi. C'est-à-dire en mettant la question des risques de biais comme une question à prendre en compte et de cette manière-là éluder toutes les problématiques qui sont à côté. Et à la DGFiP aujourd'hui, on arrive justement, on est toujours dans cette opacité où est mis en place assez récemment un conseil scientifique où chaque projet d'IA va être discuté auprès d'experts en numérique ou en data science, ce genre de choses, pour éviter les biais. Mais derrière, on ne va pas parler d'impact sur l'environnement, on ne va toujours pas parler d'impact sur le travail, on va pas parler d'impact sur en quoi ça casse les chaînes de travail, alors sur les libertés publiques. Tout ça c'est éludé un petit peu justement par cette idée que oui, il peut y avoir des intelligences artificielles positives et oui, il faut qu'on fasse attention au risque de biais et oui, l'exemple médical typiquement, il revient systématiquement comme l'exemple de ce qui est bien en termes d'intelligence artificielle. Alors nous, on n'a pas évidemment de revendication à Solidaires Finances Publiques sur ce sujet précis, mais là, à titre très personnel, moi je m'interroge sur est-ce que pour avoir lu et discuté aussi avec des chercheurs en data science justement sur le domaine médical, où on se rend compte dans l'utilisation d'IA que ça reproduit aussi les problématiques capitalistique de traitement en priorité des maladies ou des affections qui vont rapporter le plus au laboratoire. C'est-à-dire que tel ou tel type de cancer ou sur la radiologie, c'est beaucoup utilisé parce que ça rapporte beaucoup derrière. Par contre, il y a des chercheurs qui essayent de travailler sur l'intelligence artificielle sur des maladies beaucoup plus rares et qui ont beaucoup plus de difficultés à développer ces outils-là, tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de données. Et comme l'IA se base sur la donnée, est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, en accentuant trop, sur l'IA, bah justement, de recréer ou d'amplifier déjà les discriminations qui pouvaient exister auparavant.
Je voulais répondre à la camarade là qui parlait de l'inéluctabilité de l'IA parce que ce serait plus efficace. Quelqu'un l'a dit d'ailleurs dans la discussion, depuis une trentaine d'années, depuis que l'informatique a commencé à se généraliser dans le système productif, les gains de productivité n'ont pas cessé de ralentir. C'est un fait absolument indiscutable. Alors, il y a peu de choses sur lesquelles les économistes sont tous d'accord, mais ça, c'en est une. Et alors chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, numérique, on nous dit « Ah, mais cette fois-ci, ça va être différent. » Bon, alors peut-être, hein, je veux dire, on ne peut pas être totalement rétif à l'idée qu'il pourrait être quelque chose de radicalement nouveau. En attendant, ça fait quand même quelques années que les algorithmes se développent dans toute une série de secteurs. Les algorithmes... avec de l'apprentissage, etc. Et pour l'instant, et l'exemple que vous donnez à Solidaires Finances Publiques n'est pas, à mon avis, du tout surprenant. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, ça n'améliore pas du tout l'efficacité des... Et on a effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, un certain nombre de secteurs où bah, les robots, finalement, ça coûte cher et c'est quand même moins fiable, moins précis qu'un être humain. Et donc, on a... Alors, Ça ne veut pas dire que les investissements... Parce qu'on a une espèce de mythologie aussi de l'IA, de mythologie du progrès technique qui va nous sortir de l'ornière dans laquelle on s'est mise. Hein. On est dans une mythologie capitaliste. Et là le scientisme et le capitalisme ont une partie indissolublement liée. C'est-à-dire que le seul espoir, finalement, aujourd'hui, des capitalistes de sortir de la crise climatique, etc., de sortir de la crise d'effondrement du vivant à laquelle leur système nous a conduit, leur seul espoir aujourd'hui, sans renoncer à leur système, c'est la technologie. Et donc, ça peut, on va passer peut-être 20 ans à encaisser des échecs successifs sur l'agriculture automatisée, tout ce qu'on nous annonce là sur les progrès de l'agriculture robotisée, là, c'est avec l'intelligence artificielle, c'est purement et simplement délirant. Hein, mais il va falloir encore 20 ans, ou je ne sais pas même si on va y arriver, avant qu'ils se rendent compte que ça ne marche pas. Et donc l'idée est non, c'est du progrès, c'est efficace, et donc ça va forcément s'imposer. Non. Ça n'est pas efficace. Moi, j'ai fait une expérience très modeste à ma place, mais j'ai fait une collaboration. J'étais statisticien au ministère du Travail sur les enquêtes sur les conditions de travail. Et un jour, il y a des chercheurs en intelligence artificielle d'Orsay qui m'envoient un mail en disant « On aimerait bien faire une collaboration avec vous et tester un de nos algorithmes sur vos données. Et on vous propose de mener une étude sur le lien entre conditions de travail et efficacité économique. » Donc j'ai dit, je suis partisan, je suis très ouvert. Donc j'ai dit, venez, ils ont envoyé un étudiant, un thésard, qui a passé un mois à la DARES, auquel on a expliqué les données, etc. Et le rapport qu'il a sorti, mais c'est un truc mais illisible, incompréhensible, qui n'apporte rien et qui ne donne pas de résultat. Et c'est pas un petit labo, hein, c'est un des labos de pointe à Orsay sur l'intelligence artificielle. Et je me suis dit, c'est bon, le métier de statisticien, c'est pas demain qui va être remplacé, en tout cas. Donc voilà, peut-être qu'ils vont faire des progrès dans les 10 ans, dans les 20 ans. Je ne sais plus qui a dit, on ne sait pas ce que ça va donner dans 50 ans. Mais en tout cas, avant que ça devienne rentable, avant que ça remplace l'intelligence humaine, sur le plan économique en tout cas. Après, autre chose, c'est les choix idéologiques qui sont faits. Et c'est des choix politiques. Et d'ailleurs, ça permet effectivement de précariser toute une série de métiers. Ça, oui, ça a des effets réels là-dessus. Ça permet d'appauvrir toute une série de métiers en dégradant la qualité des services rendus. On le voit bien dans la santé, dans l'enseignement, etc. Donc oui, ça a des effets sur le travail. Mais ce n'est pas des effets d'efficacité. C'est des effets de domination. C'est-à-dire ça... Non, pas de rentabilité. Non. Ce n'est pas des effets de rentabilité. C'est des effets d'aggravation de la domination politique. Vous dépossédez les gens de leur métier, vous les dépossédez de leur savoir-faire, de leur autonomie, de leur initiative, vous les affaiblissez politiquement. Ça les intéresse. Mais l'efficacité économique, là, je vous assure, pour l'instant, on ne la voit pas au rendez-vous. En tout cas, dans les chiffres, dans les données de productivité, on ne les voit pas. C'est pour ça que c'est une question politique.
L'émission est maintenant terminée. La prochaine portera sur la monnaie locale, les monnaies locales, il y en a plusieurs. Au plaisir de vous y retrouver.
Nous sommes là, nous serons là. On l'a été pour contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et on le sera contre le projet d'Amazon. Merci.
Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre zone. Autre monde, autre zone. Un écho des luttes à retrouver tous les deux mois sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde,
autre monde, autre zone.
Autre zone.